Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Audible Studio présente 2001, l'Odyssée de l'espace, par Arthur C. Clarke. Traduit par Michel Demuth. Lu par Mathieu Dahan. Aston Lee. Avant-propos. Derrière chaque être vivant, il y a 30 fantômes, car tel est le rapport des morts aux vivants. Depuis l'aube des temps, environ 100 milliards d'êtres humains ont vécu sur cette planète. Et ce nombre est très intéressant, car par une curieuse coïncidence, il existe environ 100 milliards d'étoiles dans notre univers local, la Voie lactée. Ainsi, pour chaque homme qui vécut jamais, une étoile brille dans l'espace. Mais chacune de ces étoiles est un soleil, souvent plus lumineux et plus puissant que cette petite étoile proche de nous que nous appelons le Soleil. Et de nombreuses étoiles de la Voie lactée, la plupart sans doute, possèdent des planètes qui tournent autour d'elles. Ainsi, il existe certainement de par l'univers assez de monde pour donner à chacun des hommes qui habitèrent la Terre un paradis ou un enfer qui n'appartiennent qu'à lui. Combien de ces paradis, de ces enfers sont actuellement habités et par quel genre de créatures? Il nous est impossible de le deviner. L'étoile la plus proche est encore des millions de fois plus éloignée de nous que Mars ou Vénus qui, pour la génération à venir, restent des buts difficiles à atteindre. Mais la muraille des distances s'effondre. Un jour, parmi les étoiles, nous rencontrerons nos égaux ou nos maîtres. Les hommes ont mis longtemps à admettre cette idée. Certains espèrent encore qu'elle ne deviendra jamais une réalité. Un plus grand nombre, pourtant, chaque jour plus important, demande « Pourquoi une telle rencontre ne s'est-elle pas déjà produite puisque nous nous hasardons déjà dans l'espace nous-mêmes ?» Oui, pourquoi ? Ce roman offre une réponse possible à cette question très raisonnable. Mais rappelez-vous bien qu'il ne s'agit que d'une œuvre de fiction. La vérité, comme d'habitude, sera encore bien plus étrange. Arthur C. Clarke. Première partie. La nuit ancestrale. Chapitre 1. Le chemin de l'extinction. La sécheresse durait maintenant depuis 10 millions d'années. Et le règne des terribles lézards avait depuis longtemps pris fin. Ici, à l'équateur, sur le continent que l'on appellerait un jour l'Afrique, la lutte pour l'existence avait atteint un nouveau sommet dans la férocité, et le vainqueur n'était pas encore connu. Dans ce territoire aride et désolé, seul le plus petit, le plus rapide ou le plus puissant pouvait croître et espérer survivre. Les hommes singes du désert n'étaient rien de tout cela. Ils ne croissaient pas. En fait, ils étaient bien près de s'éteindre. Une cinquantaine d'entre eux occupaient une série de cavernes au-dessus d'une petite vallée calcinée où courait un ruisseau alimenté par la fonte des neiges des montagnes à 200 milles au nord. Durant la mauvaise saison, le ruisseau était complètement asséché et la tribu vivait avec la soif. La tribu avait toujours faim et, maintenant, c'était la famine. Lorsque la première lueur de l'aube filtra dans la caverne, Guetteur de Lune vit que son père était mort durant la nuit. Il ignorait que l'ancien était son père car un tel rapport dépassait sa compréhension. Mais, en contemplant le corps émacié, il ressentit un obscur malaise qui était l'ancêtre de la tristesse. Déjà, les deux bébés geignaient de faim, mais ils se turent quand Guetteur de Lune poussa un grognement. L'une des mères grogna en réponse, défendant la progéniture qu'elle ne pouvait nourrir. Guetteur de Lune n'eut pas la force de la punir de son insolence. Il faisait maintenant assez clair pour quitter la caverne. Guetteur de Lune saisit le cadavre recroquevillé et le traîna au dehors, courbé sous l'effort. Puis il le jeta sur son épaule et se redressa. Il était le seul animal au monde qui en fût capable. Au sein de sa race, Guetteur de lune était presque un géant. Il mesurait près d'1,60 m et son poids, en dépit de la famine, approchait des 50 kg. Son corps musculeux et velu était à mi-chemin entre celui de l'homme et celui du singe, mais sa tête, cependant, était plus proche de celle de l'homme. Le front était bas et les arcades sourcilières prononcées, mais déjà les gènes de Guetteur de lune recelaient la forme de l'humanité à venir. Et comme il contemplait le monde hostile du Pléistocène, il y avait dans son regard quelque chose qui transcendait le singe. Au fond de ses yeux sombres et profondément enfoncés, s'éveillait la connaissance, la première manifestation d'une intelligence qui ne pourrait s'affirmer avant des siècles, si elle ne s'éteignait pas d'ici là. Il n'y avait aucun signe de danger, et Guetteur de lune entreprit de dévaler la pente presque verticale, à peine gêné par son fardeau. Comme s'il n'avait attendu que ce signal, les autres membres de la tribu surgirent de leur refuge, plus bas dans la falaise, et se hâtèrent vers les eaux boueuses du ruisseau. Guetteur de lune examina la vallée en quête des autres, mais n'en vit nulle trace. Sans doute n'avaient-ils pas encore quitté leur caverne, à moins qu'ils ne fussent déjà en route. Mais, comme ils étaient invisibles, il les oublia. Il ne pouvait réfléchir à plus d'un problème à la fois. D'abord, il lui fallait se débarrasser de l'ancien. Cela ne demandait pas grande réflexion. Cette saison, il y avait eu beaucoup de morts, dont un dans sa propre caverne. Il lui avait suffi de déposer le cadavre là où il avait laissé le nouveau-né à la dernière lune. Les hyènes s'étaient chargées du reste. Déjà, elles attendaient, à l'endroit où la petite vallée se fondait dans la savane, comme si elle savait que Guetteur de lune devait venir. Il abandonna le corps sous un petit buisson, les ossements avaient disparu, et se hâta de rejoindre la tribu. Plus jamais il ne repenserait à son père. Ses deux compagnes, les adultes des autres cavernes, ainsi que la plupart des jeunes, étaient occupés à chercher leur subsistance plus loin dans la vallée, entre les arbres desséchés. Ils étaient en quête de baies, de feuilles, de racines tendres et d'aubaines amenées par le vent, telles que petits lézards et rongeurs. Seuls les bébés et les plus vieux ou les plus faibles demeuraient dans les cavernes. À la fin de la journée, s'il restait suffisamment de nourriture, ils pourraient manger. Sinon, très bientôt, les hyènes en profiteraient à nouveau. Guetteur de lune ne gardait pas le souvenir du passé. Et il n'aurait pu comparer un moment à un autre, mais la journée était bonne. Il avait découvert une ruche dans une souche et jouit ainsi de la plus douce gourmandise que son peuple put connaître. Dans le jour déclinant, tandis qu'il ramenait le groupe vers ses demeures, il se léchait encore les doigts de temps en temps. Bien sûr, il avait également récolté un nombre appréciable de piqûres, mais il y avait à peine prêté attention. Il était maintenant aussi proche de la satiété qu'il lui était possible de l'être, car s'il avait encore faim, il ne ressentait plus aucune faiblesse. C'était là tout ce à quoi un homme singe pouvait aspirer. La satisfaction qu'il éprouvait disparut lorsqu'il atteignit le ruisseau. Les autres étaient là. Ils étaient là chaque jour, mais cela ne changeait rien. Ils étaient une trentaine, et on aurait pu les distinguer des membres de la tribu de Guetteur de lune. En le voyant approcher, ils commencèrent à agiter les bras et à danser au bord du ruisseau en poussant des cris aigus. La tribu de Guetteur de lune leur répondit. Et ce fut tout. Si les hommes singes se battaient souvent, il en résultait rarement des blessures graves. Ils ne possédaient ni griffes ni crocs, et ils étaient trop bien protégés par leur toison pour se faire beaucoup de mal. De toute façon, ils n'avaient pas d'énergie à gaspiller. Les cris et les menaces suffisaient amplement à exprimer leur point de vue. La démonstration se poursuivit durant 5 minutes, puis cessa aussi rapidement qu'elle avait commencé, et chacun put boire son contant d'eau bourbeuse. L'honneur était sauf. Chaque groupe avait hautement revendiqué ses droits territoriaux. Cet important devoir accompli, la tribu s'éloigna au long de la berge. La nourriture la plus proche se trouvait à plus d'un mille des cavernes et la tribu devait la partager avec de grands animaux proches des antilopes qui toléraient difficilement la présence des hommes singes. Il était impossible de les affronter car ils arboraient sur le front de redoutables cornes, armes naturelles dont les hommes singes ne disposaient pas. Guetteur de lune et ses compagnons luttaient contre les morsures de la faim en croquant des baies, des fruits et des feuilles. Et, à leur portée, luttant pour le même besoin, se trouvait plus de nourriture qu'ils n'en pourraient jamais absorber. Pourtant, ces tonnes de chair succulente qui s'ébattaient dans la savane, entre les buissons, n'étaient pas seulement au-delà de toute atteinte des hommes, mais au-delà de leur imagination. Lentement, au milieu de l'abondance, ils s'enfonçaient dans la famine. La tribu regagna les cavernes sans incident aux dernières lueurs du jour. La femelle blessée gémit de contentement lorsque Guetteur de lune lui donna la branche couverte de baies qu'il avait ramenée. Elle se mit à dévorer avec avidité. C'était bien peu, mais cela lui permettrait de survivre jusqu'à ce que la blessure que lui avait infligée le léopard fût guérie et qu'elle pût chercher elle-même sa subsistance. La pleine lune se levait sur la vallée et un vent glacé soufflait depuis les montagnes lointaines. Cette nuit, il ferait froid, mais le froid, tout comme la faim, n'était pas vraiment une menace. Il faisait partie de l'existence. Guetteur de lune bougea à peine lorsqu'il perçut les cris aigus qui montaient des cavernes du bas et résonnaient entre les falaises. Il sut exactement ce qui se passait bien avant d'entendre les rugissements du léopard. Tout en bas, dans les ténèbres, le vieux cheveu blanc et sa famille luttaient et mouraient. Pas un instant il ne vint à l'idée de Guetteur de lune qu'il pouvait les aider. La dure logique de la survivance avait imposé des règles et pas une voix ne s'éleva de la falaise. Les cavernes épargnées demeuraient silencieuses. Le tumulte prit fin. Guetteur de lune put entendre traîner un corps au dehors. Cela ne dura que quelques secondes. Puis le léopard assura sa prise et ne fit plus le moindre bruit en emportant sa proie entre ses mâchoires. Pour la tribu, il n'y aurait aucun danger pendant un jour ou deux. Mais d'autres ennemis continueraient de rôder au loin, profitant de la froide clarté du petit soleil. Les cris parvenaient parfois à repousser les agresseurs de petite taille si l'on était averti à temps de leur approche. Guetteur de lune rampa jusqu'à l'extérieur, grimpa sur un gros rocher proche de l'entrée et s'accroupit pour observer la vallée. De toutes les créatures qui avaient jamais vécu sur Terre, les hommes singes étaient les premiers à contempler la lune en face. Et bien qu'il ne pût s'en souvenir, Guetteur de lune, dans sa prime jeunesse, avait souvent tendu la main pour essayer de toucher cette face fantomatique qui errait au-dessus des collines. Jamais il n'y était parvenu, et à présent, il était assez âgé pour en comprendre la raison. Il fallait avant tout trouver un arbre suffisamment haut. Parfois, il regardait la vallée, parfois, il regardait la lune, mais il ne cessait jamais de tendre l'oreille au bruit nocturne. Il s'assoupit une ou deux fois, mais il était constamment en alerte et le son le plus ténu l'éveillait aussitôt. Il avait atteint l'âge avancé de 25 ans, mais il possédait encore toutes ses facultés. Si sa chance persistait, s'il évitait les accidents, les maladies, les fauves et la famine, il pouvait espérer vivre encore une dizaine d'années. La nuit s'écoula, froide et claire, sans autre alerte, et la lune s'éleva lentement entre des constellations équatoriales qu'aucun œil humain ne connaîtrait jamais. Au fond des cavernes, entre le sommeil et l'attente angoissée, naissaient les cauchemars des générations à venir. Et, par deux fois, montant au zénith pour redescendre à l'Orient, un point de lumière plus brillant que n'importe quelle étoile passa lentement dans le ciel.